Voilà, on va reprendre notre cours sur les enseignements du Rav Kook concernant la terre d'Israël, l'importance de vivre sur la terre d'Israël et surtout le pourquoi de cette importance. On avait expliqué dans le précédent cours que la seule véritable manière, le seul véritable réceptacle qui pouvait nous préparer à s'installer sur cette terre et surtout à y rester est la Emouna. Encore une fois, je vous invite à réécouter le précédent cours pour mieux comprendre le cours d'aujourd'hui. Et la Emouna dans le sens qu'il y a quelque chose dans cette terre, et c'est ce qu'on va revoir aujourd'hui, quelque chose dans cette terre qui dépasse, on pourrait dire, toutes les approches et toutes les logiques qui font qu'un peuple a besoin d'une terre. Généralement, comme on l'avait déjà vu, on va le revoir, un peuple a besoin d'une terre parce que bon, il lui faut un endroit dans lequel il peut se développer, dans lequel il peut se construire, se renforcer et s'exprimer. La terre n'est qu'un moyen, mais en vérité le but c'est l'expression et la construction du peuple. Le Rav explique qu'en ce qui concerne la terre d'Israël, ce n'est absolument pas l'approche que nous devons avoir par rapport à cette terre, parce que c'est exactement le contraire qui est vrai. La terre n'est pas un moyen, mais la terre est un but. En ce sens que si le but du peuple juif, c'est de comprendre qui il est, quelle est sa mission, quelle est son identité véritable et pourquoi il a été choisi par le maître du monde, si c'est ça le but du peuple juif, ce but-là ne peut se dévoiler à lui que grâce et uniquement grâce à sa présence positive, c'est-à-dire avec un bon esprit, une bonne compréhension de sa présence donc en Israël. Dès que le peuple juif revient sur sa terre, à ce moment-là, cette terre qui est différente de toutes les autres, en ce sens que toutes les autres ne sont qu'un moyen d'arriver au but, mais cette terre est le but lui-même, en ce sens que grâce à la connexion ou la reconnexion avec cette terre, le peuple juif découvre qui il est véritablement. Il découvre ce qu'est véritablement son identité, car il est absolument impossible d'avoir une identité juive authentique lorsque l'on n'est pas sur cette terre, même si on étudie la Torah toute la journée, même si on accomplit toutes les mitzvot, on arrive à développer la dimension spirituelle, même d'une manière authentique qui se trouve dans le juif. Mais la dimension spirituelle n'est pas tout le juif. Le juif a aussi une mission à l'intérieur de son peuple et par rapport au monde entier. Il est évident que lorsque les juifs sont dispersés et qu'il y en a une partie ici, une partie ailleurs et aux quatre coins de la terre, aucun juif ne peut faire quelque chose pour son peuple, puisque le peuple est lui-même complètement disloqué. À combien plus forte raison que le peuple en exil ne peut rien faire pour l'humanité tout entière. Donc au maximum, chacun arrive plus ou moins, et encore, à construire son ego, ça veut dire sa seule et unique minuscule réalité. Et même s'il est un petit peu plus grand et qu'il arrive à avoir des dizaines, des centaines, des milliers d'élèves, ça n'atteint pas tout le peuple juif et encore moins les nations. Donc si le but d'Israël, c'est de retrouver son identité en tant que peuple, si le but d'Israël, c'est que chacun d'entre nous sente que notre mission véritable n'est pas seulement de nous construire nous-mêmes ou ceux qui nous entourent, mais d'être une partie intégrante de la construction du peuple juif et à travers cette construction de dispenser une lumière pour toutes les nations, ce but qui est celui d'Israël ne peut se révéler, explique le Rav, qu'en Eretz Israël, parce que c'est exactement l'effet d'une prise que tu rentres dans la prise. En français, c'est le même mot, la prise dans la prise. En hébreu, c'est le sheka dans le teka, donc ça change un petit peu. Donc si tu veux allumer ton lampadaire, tu as besoin de brancher. Et dès que tu te branches, tu as la lumière. C'est exactement ça l'effet Eretz Israël. Dès que Israël se reconstruit sur sa terre, à ce moment-là, il se branche à la prise et automatiquement la lumière jaillit en lui et il redécouvre qui il est, dans le sens total du terme, pas seulement dans le sens religieux, j'étudie la Torah, je pratique les commandements, mais dans le sens de la mission véritable d'Israël, qui est le tikkun du monde, la réparation du monde, d'amener la délivrance dans le monde entier, pas seulement pour nous Israël, mais pour l'humanité tout entière, afin de pouvoir passer à la deuxième étape qui s'appelle le Olam Haba, le monde à venir, et encore et encore et encore des étapes. Donc cette étape d'arriver à la réparation et à la construction du monde n'est possible uniquement lorsque Israël est sur sa terre. En ce sens, tout juif qui aujourd'hui encore, je ne parle pas il y a 200 ans, il y a 300 ans, quand c'était impossible pratiquement de venir s'installer sur cette terre, mais aujourd'hui, dans la mesure où toutes les portes sont ouvertes, celui qui ne vient pas vivre ici en Israël, d'une certaine manière, consciemment ou non, refuse de jouer véritablement son rôle en tant que juif. Et d'une certaine manière, c'est une forme, consciente ou non, de trahison par rapport à la raison qui a fait que Hachem a choisi que tu serais juif. Donc si finalement tu vis uniquement comme n'importe quel autre homme, je parle d'un homme bien, non juif, qui a sa croyance, qui a sa morale, qui a sa vie familiale, et que finalement, qu'est-ce qui te différencie d'un autre? Il y a dans le monde des millions de non-juifs qui vivent d'une manière exemplaire, qui sont croyants, pas forcément idolâtres, qui ont une vie morale, une vie familiale, une vie de couple, une vie sociale extraordinaire. Qu'est-ce qui te différencie d'eux? Donc pourquoi Hachem a fait de toi un juif? Si finalement, à quelques nuances près, tu vis comme eux et ils vivent comme toi. C'est comme si tout d'un coup quelqu'un a fait des études de médecine et puis après avoir décroché un diplôme, il est là, il pourrait devenir un très très bon médecin, finalement il renonce à ce pourquoi il a travaillé pendant des années et va vivre comme n'importe quelle autre personne sans exercer son métier. Pourquoi tu as fait tellement d'études? Tu as en toi la possibilité de sauver des vies, pourquoi tu ne le fais pas? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui pour tout juif qui vit en dehors de sa terre. Alors pose-toi la question, pourquoi Dieu t'a fait juif? Et ne me réponds pas bêtement uniquement pour pouvoir mettre les tefilines. Parce que ce n'est pas parce que tu mets les tefilines que tu vas changer le monde. Il faut un peuple pour changer le monde. Il faut une puissance nationale. Il faut un exemple qui puisse être un exemple pour toutes les nations. Ce n'est pas un juif qui met les tefilines à Paris qui va impressionner les non-juifs et qui va les faire changer. Même pas les juifs eux-mêmes. La majorité des juifs partout dans le monde, en tout cas en France c'est sûr, ne sont pas religieux. T'as beau mettre les tefilines tous les jours, t'arrives même pas à changer ton peuple. Donc on a besoin de quelque chose de puissant, de grand, un modèle visible pour tous, qui se construit sur le plan moral, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan militaire, sur le plan politique, et qui devient un exemple réel pour les nations tout entières. C'est ça ma mission en tant que juif. Donc si je ne viens pas vivre en Israël aujourd'hui, d'une certaine manière, je tourne le dos à ma mission, et c'est comme si je disais à Hachem, pourquoi tu m'as fait juif? Et encore une fois, ne nous piégeons pas dans l'absurdité de se dire, oui mais attention, je mange cachère. Parce que le maître du monde ne nous a pas demandé de manger cachère uniquement pour flatter notre ego. Il y a des raisons profondes à cela, qui sont le dévoilement d'une lumière qui sera celle qui réparera le monde. Alors évidemment, il y a des difficultés énormes à venir vivre ici, mais on est tous passés par là. Et c'était ça le cours de la semaine dernière, grâce à la Emouna. Grâce à cette confiance que j'ai une mission, que ma seule logique et ma seule rationalité ne peut pas comprendre, je dois me lancer comme Nachshon qui est rentré dans l'eau, qui a ouvert la mer. Je dois avancer avec Emouna, avec confiance que c'est ma mission en tant que juif. Et si j'ai le courage de faire quelque chose de difficile, de venir m'installer sur ma terre avec cette conviction que je réalise à ce moment-là mon rôle de juif, à ce moment-là, c'est sûr et certain, comme on l'a tous vécu, que malgré les difficultés, Hachem nous ouvrira des portes inimaginables et on aura une réussite dans tous les domaines qui dépassent l'entendement sur cette terre. C'est ce que chacun d'entre nous vit parce qu'on a traversé ces difficultés, mais on s'est renforcé dans une émouna inimaginable. Et aujourd'hui, comme je le dis toujours, sans la moindre hésitation, Si quelqu'un venait me proposer et me disait, Chaïm, regarde, je te donne 100 millions d'euros, rien qu'accepte de quitter ta terre pendant un an, je ne parle même pas pour toujours, un an, et tu reçois 100 millions d'euros, je vous affirme devant Hachem, je lui dis même ne me tente pas parce que t'as perdu d'avance. Je dis Hachem, 100 millions d'euros pour quitter ma terre pendant un an, je ne comprends même pas la question. Je ne comprends même pas la question. J'ai même pas besoin de faire un effort. Parce que comment je comprends la question ? Est-ce que tu es d'accord de cesser de vivre pendant un an, je te donne 100 millions ? Non, j'ai pas envie de mourir pendant un an pour 100 millions. Je préfère vivre avec 1000 euros par mois plutôt que de mourir avec 100 millions d'euros. Voilà ce qu'on ressent tous après avoir traversé toutes les difficultés qui ont ouvert les portes de la bénédiction qui nous tient ici sur cette terre aujourd'hui et qui nous donne le sentiment profond de faire quelque chose pour notre peuple et l'humanité tout entière. Alors on va continuer. Le Rav va reprendre justement cette notion maintenant en fin de texte et il va rajouter quelques nuances. Et on va d'abord lire le texte, le terminer, le premier texte, et après on expliquera. Le Rav revient et dit, « Amar Shava al davar eret Israël, tout celui qui pense que la terre d'Israël, chez Irak erech chitsoni kede hamadat agudat aouma, comme j'ai expliqué, qui n'est qu'un moyen d'arriver à la formation d'un peuple, comme la France pour les Français, l'Allemagne pour les Allemands, la Belgique pour les Belges. C'est pas la terre en tant que telle, il n'y a pas, on pourrait dire, un lien spirituel, un lien métaphysique, un lien divin entre le français et la France. C'est bon, ce que la Providence a choisi comme endroit pour que la France existe. C'est un moyen. Exactement de la même manière que si je suis un menuisier, j'ai besoin d'un marteau, j'ai besoin d'une scie, j'ai besoin de quantité d'instruments. Mais c'est pas eux. Eux, c'est uniquement un moyen. Une fois que j'ai fini mon travail, je les remets dans ma trousse. Et celui chez qui j'ai travaillé vient et me donne à moi le salaire, pas à ma trousse d'outils. C'est qu'un moyen. Et demain, si je trouve une plus belle trousse d'outils, ben, je changerai de trousse. Je ne suis pas attaché, on pourrait dire, ni moralement, ni spirituellement à mes outils. Ça, c'est le cas de pratiquement tous les peuples sur Terre. C'est sûr qu'ils aiment leur terre. Mais il n'y a pas de relation, on pourrait dire, métaphysique, spirituelle avec la terre. Il n'y a pas de lien divin avec la terre. Chez nous, c'est tout le contraire. D'ailleurs, toutes les nations appellent cette terre la terre sainte. Eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils disent exactement ce que le Rav Kook dit. Puisque même un non-juif appelle cette terre la terre sainte. Donc tout le monde comprend que cette terre est bien plus que toutes les autres terres. Ce n'est pas un moyen, c'est un but. C'est le moyen de nous permettre d'arriver au but. Et le but, c'est la connexion avec Hachem, et cette connexion avec Hachem, elle est dans la terre elle-même, dans la terre d'Israël. Donc encore une fois, le Rav dit, tout celui qui pense que cette terre est comme les autres terres, « Afilouk she'iba kedelevatser aliada et arayon ayehoudi begola » Plus encore, dit le Rav, même si quelqu'un se dit, « Non, je veux vivre en Israël parce que ça m'est difficile de pratiquer mon judaïsme en dehors de la terre d'Israël, parce que, imaginons qu'il vivait ou qu'il vient d'un pays où on ne pouvait pas vivre totalement librement en tant que juif, c'est le cas de nombreux pays, il y a encore de nombreuses années, et supposons que, je ne sais pas moi, dans les fin du 19e siècle, début du 20e siècle, un juif russe ou polonais décide, bon, moi je pars en Israël parce que j'ai envie de vivre mon judaïsme sans problème. Bien qu'en vérité, mon exemple est faux, parce qu'à cette époque-là, il quitte la Russie pour arriver en Turquie, puisque c'est les Turcs et les Ottomans qui dominent le pays, et il n'y a pas de raison qu'il pourra mieux vivre son judaïsme sous régime ottoman que sous régime russe. Bon, je ne sais pas, bon, mais vous comprenez l'idée. Si quelqu'un se dit, moi, je veux vivre en Israël parce que je veux pouvoir affirmer mon judaïsme à part entière. Même ça, le rabbi dit que c'est faux. C'est pas encore la vraie raison. Je reprends. Kede lishmor et tsiviono ayal begola. Kede lishmor et tsiviono ulamet et aimuna vayira vachizuk shel mitzvot amasyot betzura aguna. Et encore une fois, bon, je lis vite. Son but, c'est de se dire, je veux vivre sur cette terre parce que au moins je pourrai accomplir les mitzvot comme je veux. Je vais parler à sa place, il va expliquer que c'est faux, mais je vais donner un exemple simple. Imaginez-vous donc un juif qui se trouve en Russie il y a un siècle et qui se dit « Bon, moi je veux trouver un endroit où je peux vivre mon judaïsme sans problème. » Je peux lui répondre « T'as pas besoin de vivre en Israël, va en Amérique. » Ce qu'ont fait d'ailleurs des centaines de milliers de juifs. Des millions de juifs ont quitté au début du XXe siècle la Russie pour partir en Amérique. Et effectivement, ils ont là-bas trouvé une terre où jusqu'à aujourd'hui, je ne dirais pas jusqu'à demain, parce que demain ça va être l'Allemagne nazie, l'Amérique, et vous verrez, je ne me tromperai pas, et tout le monde dira « Waouh, le Rav Lubavitch était un prophète ». Non, je ne suis pas un prophète, j'ai simplement un minimum de bon sens, et que je sais, à partir de la Torah, que l'histoire se répète sans arrêt, et là où les Juifs sont le mieux pendant des décennies, c'est là où ils vont être le moins bien, malheureusement, pendant des drames et des drames, mais peu importe, en tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas vivre mieux son judaïsme qu'en Amérique, je dirais peut-être encore mieux qu'en Israël. Puisque t'as la liberté absolue de t'exprimer en tant que juif comme tu le veux, mais t'as aussi beaucoup plus de moyens matériels, beaucoup plus de confort, donc ouais, ton judaïsme, tu le vis à un niveau, waouh. C'est pour ça d'ailleurs que on pourrait dire, il y a beaucoup plus de juifs orthodoxes aux États-Unis qu'il y en a en Israël. Donc, viens pas en Israël, viens aux États-Unis, c'est ce à quoi leur a fait allusion. Tu ne peux pas dire que la terre d'Israël, c'est uniquement le moyen qui te permettra de t'exprimer librement en tant que juif. Car il y a toujours eu dans l'histoire des endroits où un juif pouvait être, même en dehors de sa terre, et vivre très fièrement et très ouvertement en tant que juif. Donc ça ne peut pas être ça aussi le moyen, la raison pour laquelle on a besoin de cette terre. Donc, ni pour former un peuple, comme la France aux Français, ni pour s'exprimer en tant que juif sur le plan religieux, parce que dans ce cas-là, va à Monsi, va à Manhattan, va à Los Angeles, va à Miami, t'as pas besoin de venir à Jérusalem. Et même aujourd'hui, va en France. T'as pas besoin de venir en Israël, reste en France. En France, il n'y a aucun problème. Ah, ces derniers temps, il y en a qui disent qu'il ne faut plus sortir avec une kippa sur la tête, mais bon. Mais on va dire jusqu'à il y a 10 ans, jusqu'à 20 ans, heureux comme un juif en France. T'as pas besoin de venir en Israël si c'est que pour accomplir ton judaïsme. Le Rav répond En la aperi araou il ekiyou. Tout celui qui a cette approche de la terre d'Israël est en train de planter, dit le Rav, une graine qui donnera des fruits qui pourriront. Ça veut dire, il n'y a pas de kiyou, il n'y a pas d'avenir à cette vision et à cette approche de la terre d'Israël. À chaque fois que le peuple juif a pris cette terre pour une terre, comme les autres, les Jordaniens ont la Jordanie, les Belges ont la Belgique et les Juifs ont Israël. Plus encore, dit le Rav, à chaque fois que les Juifs se sont dit « cette terre c'est au moins l'endroit où je peux mettre une kippa sur la tête et on me fout la paix, on ne traite pas de ça de juif », même cette approche-là, qui est pourtant une approche plus élevée car c'est une approche religieuse, même elle donnera naissance à des fruits destructeurs qui détruiront ta présence en Eretz Israël, dans la terre d'Israël. Voilà ce que dit le Rav. Et il ne s'est pas trompé. Parce que lui, même s'il a vécu il y a un siècle, il parle après des millénaires d'histoire juive. Et tout celui qui lit le Nar, la Bible en français, voit très bien qu'à chaque fois que notre peuple est redevenu un peuple comme les autres. Je ne dis pas comme les autres dans le sens qu'il ne mange pas kasher, il ne fait pas shabbat, je ne parle pas de ça. Mais comme les autres, avec la même approche de la terre et du pays, il y a eu la destruction et l'exil. À chaque fois. À chaque fois que notre peuple s'est mis en tête de vivre juif, mais avec la même approche nationale que les autres nations, tout de suite, chorban, destruction et exil. Le Rav ne se trompe pas. Il y a quelque chose de différent dans cette terre que si tu ne te connectes pas à cette différence, tu n'as aucune chance de pouvoir vivre et survivre sur cette terre. Elle te rejettera. Comme dit la Torah, la terre vomit ses habitants. Mais c'est exactement ça. Ça veut dire quoi vomir? Comment la Torah, c'est un verset. La Torah dit la terre vomit ses habitants. Ça veut dire pourquoi on vomit? Parce qu'on a mangé quelque chose que le corps n'accepte pas. Et bien c'est ça l'image de vomir ses habitants. Lorsque le peuple qui se trouve sur cette terre a une compréhension de la terre qui est complètement erronée, la terre ne supporte pas ce peuple, elle le rend malade et elle le vomit. Partez en France, partez en Russie, partez au Maroc, foutez-moi la paix. Je ne suis pas la terre Que vous pensez? Ben donnons un autre exemple très simple. Cet exemple n'est pas de moi en vérité, parce que nos maîtres comparent, surtout dans le Zohar, la relation entre le peuple juif et la terre comme la relation dans un couple entre le mari et la femme étant la terre, puisque c'est elle qui donne les fruits. Et prenons l'exemple du couple. Si je me marie avec une femme, même si je suis gentil avec elle, mais elle ressent que finalement je l'aime parce qu'elle est bonne cuisinière, parce qu'elle tient bien la maison, parce qu'elle s'occupe bien des enfants, parce qu'elle est gentille. Bref, pour toutes ces raisons-là, qui sont de bonnes raisons, mais qui sont les seules raisons, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, elle va me foutre dehors. Parce qu'elle va venir, et moi, je suis où là-dedans? Où je suis, moi? Moi, ton épouse, ta femme. Je ne suis pas qu'une bonne cuisinière, je ne suis pas qu'une bonne mère, je ne suis pas qu'une bonne ménagère, je ne suis pas qu'une gentille femme. Car il y en a plein des gentilles femmes. Je suis ton épouse, où est ma place en tant qu'épouse? Et bien, c'est exactement ça l'idée. Tu peux donner toutes les bonnes raisons à ta présence ici en Israël. Mais si tu ne trouves pas la bonne, un jour la terre te dira, et moi, où je suis moi là-dedans? Où je suis? Continuons. Ce texte est... Waouh. Je ne sais pas comment remercier Hachem de nous avoir donné des maîtres d'une telle dimension. Waouh. Incroyable. Il explique. Qui a Yesod ou Raoua Be'erer Etan Akodosh El Israël. Toutes ces raisons que je viens d'évoquer, dit le Rav, la construction nationale, même la construction religieuse, c'est pas de moi, c'est de lui. Toutes ces raisons-là sont comme si tu construisais une maison sans fondation, dit le Rav. Tout va s'écrouler. Tu n'es pas ici pour être une nation comme les autres. Tu n'es pas ici pour pouvoir vivre ta religion sans qu'on te traite de sale youpin. C'est pas pour ça que tu es là. Aïmoutza amiti shel harayon hayadut bagola bo yavo rak mitzad elmek shekru beretz Israël. Tous les juifs qui sont dispersés de par le monde, dit le Rav, ne comprendront véritablement ce qu'est le judaïsme, excuse-moi du mot, mais je traduis en français, que lorsque nous serons revenus sur notre terre. Personne, absolument personne, strictement personne n'est capable de dévoiler, de comprendre, d'exprimer, d'enseigner véritablement ce qu'est l'identité juive tant que nous ne serons pas revenus sur notre terre avec la bonne approche, dit le Rav. Incroyable. Seulement celui qui ne vit que dans l'espoir de revenir sur cette terre, même s'il n'y est pas encore, mais qui vit dans l'espoir de revenir sur cette terre, même s'il n'y est pas encore, le simple fait que toute sa vie transpire de ce désir, de cette volonté de revenir, celui-là, et seulement celui-là, commence à faire briller en lui l'identité juive véritable. Mais si tu vis en Gola, même si tu as une super barbe et un super chapeau, et que bon, une fois par an, tu dis les Shana Abba Yerushalayim, mais deux ou trois fois par an, tu viens faire un petit voyage ici en Israël, etc. Mais dans ta vie de tous les jours, bah, tu vis plus du tout avec... ce sentiment qui te remplit avec ce désir, avec ce languissement, mais où je suis, je veux partir. Si tu ne vis pas comme ça, dit le Rav, tu n'as aucun lien avec le judaïsme authentique. Aucun lien. On continue. Tzipiyat Yeshua Ikoar Amaamit Shalayadut Agalutit. Il termine ce texte par une phrase bouleversante. Il dit, il n'y a que deux manières de vivre un judaïsme authentique. Si tu es en dehors de ta terre, tu ne peux être un juif authentique que si, je reprends les mots, si tu es un juif en galoute et que ton judaïsme est un judaïsme galoutique, la seule chose qui te permettra de sortir de cet esprit galoutique qui n'a rien à voir avec la Torah que tu étudies et les mitzvot que tu accomplis. Tu peux étudier la Torah, accomplir les mitzvot et être un juif complètement galoutique dans ton étude, dans ta pratique des mitzvot. Quelle est la seule chose qui va te sortir de là? Il explique, c'est que tous les jours, 24 sur 24, tu ne sois rempli que d'une seule et unique préoccupation. Je veux revenir sur ma terre. Derrière Agave, en passant, traduction française, ça a été la manière de vivre dont ont vécu deux géants qui étaient le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov, qui ont été les premiers géants de l'histoire plus ou moins contemporaine, il y a 300 ans, à comprendre que c'était fini, on ne peut plus vivre en dehors de sa terre. C'est eux qui ont envoyé pratiquement tous leurs élèves et les plus grands, ils leur ont dit « partez en Israël ». Eux-mêmes ont quitté le Gaon de Vilna, la Lituanie, le Baal Shem Tov, l'Ukraine, sont arrivés jusqu'à Istanbul. Après des mois de voyage, on a jusqu'à aujourd'hui une lettre inimaginable que le Gaon de Vilna a laissée à sa femme et sa famille, en leur disant qu'il était parti, qu'il partait, qu'il ne reviendrait plus. Il laisse sa femme, ses enfants, bon, ça paraît fou. Et pour vous dire, un homme qui a des centaines de milliers d'élèves, qui a une femme extraordinaire, des enfants extraordinaires, mais comment tu peux tout laisser partir en Israël à l'époque des Ottomans, il y a 300 ans? C'est pas la preuve que cet homme-là ne pouvait pas vivre, ne pouvait pas respirer sans la terre d'Israël? Ils sont arrivés à Istanbul, malheureusement, ils n'ont pas pu aller plus loin parce qu'il y avait la guerre sur la mer, etc. Les ports étaient bloqués, ils sont repartis. Mais ils ont montré concrètement qu'ils ne pouvaient vivre que pour cette terre. Et après, ils ont envoyé pratiquement tous leurs élèves. Et c'est là qu'a commencé véritablement le vrai retour. Comme je dis toujours, le premier Herzl juif de l'histoire, c'est pas Herzl, c'est le Gaon de Vilna et c'est le Baal Shem Tov. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé après? Comme toujours, à chaque fois que les grands lancent une idée, après leur mort, bon, j'aime pas le mot, mais après leur disparition, à nos yeux, viennent les petits rabbins, les petits qui, eux, stoppent le projet parce que, bon, ça ne va pas selon leurs intérêts. Et tout le monde comprend pourquoi. Et si je suis plombier, j'ai besoin de tuyaux cassés pour que je puisse les réparer. Si je suis peintre, j'ai besoin de murs pour peindre. Si je suis constructeur de maisons, j'ai besoin de pierres et j'ai besoin de gens qui ont besoin qu'on leur construise des maisons. Et si je suis rabbin, j'ai besoin d'une communauté qui me donne à manger. Donc sont venus les petits rabbins après eux qui ont stoppé le projet. Mais les grands, les vrais maîtres d'Israël, 200 ans avant Herzl avaient déjà dit « Nous devons partir. Nous devons partir. » Et eux sont arrivés jusqu'à Istanbul. Donc, encore une fois, vous imaginez des gens qui ont tous les honneurs, les moyens matériels, les élèves, la famille, ils ont tout. Et ils partent seuls. J'imagine qu'arrivés là-bas, ils auraient tout fait pour faire venir leur famille. Mais en tout cas, dans un premier temps, ils partent seuls. Mais vous imaginez, c'est exactement ce que dit le Rav. Ils ne pouvaient pas respirer une seconde sans l'idée d'être en Israël. Ce qui veut dire que même en Lituanie et même en Ukraine, c'était déjà de vrais juifs. C'est pour ça qu'ils sont devenus les géants de l'histoire du peuple juif. Chacun à sa manière, le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov. Mais tous les autres qui vivaient, bon, allez, l'an prochain à Jérusalem, bon, on a encore 3 mois pour le dire, mais pour l'instant, heureux comme un juif en Ukraine, heureux comme un juif en France, ceux-là, dit le Rav, ne sont pas des juifs authentiques, et ça n'a rien à voir avec leur pratique. Ce ne sont pas des juifs authentiques, car ils ne meurent pas de ne pas être en Israël, mourir dans le sens qu'ils ne peuvent plus respirer. Voilà ce texte absolument incroyable. Et le Rav conclut en disant, et seulement quand on arrive sur cette terre, on commence à vivre la délivrance authentique. La délivrance authentique dans tous les sens profonds du terme. Puisque c'est quoi l'exil, comme je ne cesse de l'expliquer? C'est pas simplement qu'on a un déplacement géographique, c'est pas ça l'exil. Ça, c'est uniquement l'expression la plus extérieure de l'exil. C'est quoi l'exil? C'est le fait que je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas pourquoi j'existe, je ne sais pas pourquoi Hachem m'a créé, qu'est-ce qu'il attend de moi, je ne sais rien de moi. C'est ça l'exil. L'exil est intérieur, beaucoup plus qu'extérieur. comme disait d'ailleurs le Rav Kook, il disait, puisque lui a commencé, a vécu à l'époque où les Juifs commençaient à revenir sur leur terre par milliers, il a dit, ça sera beaucoup plus difficile de sortir l'exil des Juifs que de sortir les Juifs de l'exil. Ça veut dire sortir les Juifs de l'exil, c'est un déplacement géographique, mais sortir le véritable exil des Juifs, l'exil intérieur, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Quel géant! Mais seulement lorsque tu arrives ici, tu commences à te libérer. Ça veut dire que tu sors de l'exil intérieur. Tu commences à savoir qui tu es. Alors évidemment, il y a des milliers de Juifs qui vivent ici et qui, d'une certaine manière, j'ose presque dire, vivent comme s'ils étaient restés en France ou ailleurs. Parce que justement, c'est ce que le Rav explique dans ce premier texte, parce que dès le départ, leur approche de la terre était faux. Je suis venu ici parce que j'ai peur de l'antisémitisme. Je suis venu ici parce que j'ai envie d'un endroit où je peux mettre une kippa sur la tête sans avoir peur de me faire démolir dans la rue. Je suis venu ici parce que je veux retrouver ma nation, être une nation comme toutes les nations. Toutes ces approches qui sont malheureusement trop répandues à l'intérieur de notre peuple ici en Israël font que je vais vivre ici comme si j'étais resté à Paris. Parce que dès le départ, tu es venu avec une fausse approche. Mais si tu es venu ici avec l'intention unique de savoir qu'est-ce que le maître du monde attend de moi en tant qu'individu, attend de mon peuple en tant que nation, et je viens en Israël parce que je sais que c'est le seul endroit où ce secret me sera révélé, toi tu vas vivre la délivrance. Tu vas sentir en toi que ton identité se dévoile, que ton être juif se construit, et tu vas devenir une lumière pour ta génération. Merci au maître du monde, merci de nous avoir donné des maîtres d'une telle dimension. Et j'ai pas de mots, merci.